Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. À 18h20, on sera avec un élu inquiet et en colère, le maire de La Plagne Tarentaise. Il est aussi président de l'association des maires des stations de montagne. Il craint évidemment que les remontées mécaniques restent fermées. On va détruire toute une économie, dit-il. Jean-Luc Bock sera donc notre invité à 18h20. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Pour ou contre un passeport vaccinal, vous verrez que ça n'est pas si simple. Et puis 19h20, place au grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéressera aux jeunes et aux étudiants. Leur détresse est immense, on en parle souvent. Et en plus, ils sont privés de petits boulots. Des élus de tous bords réclament maintenant pour eux un revenu minimum. On en débattra donc avec nos invités et le témoignage de l'un de ces étudiants qui se dit à bout. D'abord le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Bienvenue à l'écoute d'Europe 1, il est 18h.
Les personnes qui se sont fabriquées leurs propres masques, y compris en suivant les normes AFNOR sur Internet, devraient basculer vers des masques plutôt industriels, dont les normes de filtration correspondent au moins à 90%.
Les nouvelles recommandations des autorités sanitaires face à la propagation des nouveaux variants venus de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud ou du Brésil, plus contagieux, ils font donc davantage s'en protéger.
Le Haut Conseil de la Santé publique recommande donc d'éviter les masques en tissu cousu main.
L'idée d'un passeport vaccinal pour voyager au sein de l'Union européenne fait son chemin, mais les obstacles restent nombreux, nous dira Isabelle Horry à Bruxelles.
Au sommaire également ce soir, les professionnels du spectacle qui réclament des aides supplémentaires afin de pouvoir financer les répétitions en attendant une éventuelle reprise.
Un ancien Premier ministre devant la Cour de justice de la République, ouverture du procès d'Edouard Balladur, soupçonné d'avoir financé illégalement sa campagne de 2015.
Et demain à cette heure-ci, Donald Trump sera redevenu un simple citoyen américain. Dernières heures donc à la Maison Blanche, on sera évidemment à Washington.
Et c'était évidemment la campagne de 95 pour Edouard Balladur. Et puis le Tour de France 2021 sans Thibaut Pinot, il préfère le Giro. Décidément, il y a peu de chances pour qu'on ait un Français sur le podium cette année. La Bourse de Paris a terminé en léger repli de 0,33% à 5598 points.
Et puis la météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le vent soufflera fort demain.
Oui, des vents tempétueux, même sur une certaine partie de la France. En tout cas, le vent va souffler sur toutes les régions. Personne ne sera épargné. Les températures, elles seront plus douces demain. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et face aux variants plus contagieux que le virus initial, les autorités sanitaires remettent donc en question aujourd'hui la fiabilité des masques en tissu.
Victor Dolande, le Haut Conseil de Santé publique, nous recommande donc de bannir les masques artisanaux faits à la maison, ceux que nous avons cousus avec application et avec beaucoup d'amour d'une certaine manière lors du premier confinement.
Oui, tout à fait. Le Haut Conseil de la Santé publique veut notamment éviter les masques passoires, vous savez, ces protections un peu artisanales en tissu qui ne filtrent pas suffisamment bien les particules ou qui baillent et qui n'encadrent pas assez le visage. En déplacement au siège de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé ses consignes.
Les personnes qui se sont fabriquées leurs propres masques, y compris en suivant les normes AFNOR sur Internet, devraient basculer vers des masques plutôt industriels, dont les normes de filtration correspondent au moins à 90%. C'est la plupart des masques que nous avons d'ailleurs distribués nous-mêmes sur le territoire national. Donc ça ne change pas fondamentalement la donne, seulement faire attention à ce que le masque grand public qu'on porte corresponde bien à ces normes industrielles.
Donc si on prend les normes AFNOR, les masques en tissu de catégorie 1 filtrent 90% des particules, tandis que ceux de catégorie 2 n'en bloquent que 70%. Alors comment essayer d'y voir plus clair dans les nombreux masques qui sont proposés dans le commerce? Préférez soit un masque chirurgical, ça c'est bon, soit un masque de catégorie 1. Pour vous repérer, c'est assez simple, c'est écrit sur l'emballage, c'est ce qu'on appelle les masques de grand public de niveau 1. En revanche, si vous trouvez un masque plutôt joli dans une boutique de vêtements ou dans un autre commerce, mais qu'il n'y a rien écrit dessus, ne l'achetez pas, il n'est pas suffisamment protecteur.
Merci Victor Dolande pour ces précisions importantes.
Le gouvernement avait promis de jouer la transparence, et bien il communique ses chiffres aujourd'hui. 139 cas d'effets indésirables, graves ou inattendus ont été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. Et 5 personnes sont mortes après avoir reçu le vaccin, mais elles avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidités. Pas de confirmation formelle sur le lien de cause à effet. On verra à 19h que ce sont des chiffres à relativiser, qui n'ont rien a priori d'inquiétant.
Et sachez par ailleurs que le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que dans les 15 départements sous couvre-feu à 18h depuis maintenant le de janvier, un effet commence à se faire sentir avec une baisse des nombres de cas. Et alors que nous rêvons tous d'un retour à la vie d'avant, l'Europe planche donc sur la possibilité d'instaurer ce fameux passeport vaccinal.
Qui permettrait aux personnes vaccinées de pouvoir voyager en Europe, idée poussée notamment par la Grèce, hein, qui a un besoin presque vital de retrouver des touristes le plus vite possible. Isabelle Horry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Isabelle, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. En France, par exemple, les enfants ont l'obligation d'être vaccinés pour être admis à la crèche ou à l'école. Il faut aussi un certificat de vaccination contre la fièvre jaune quand on voyage vers certains pays. Sauf qu'au niveau de l'Europe, eh bien, cette idée, Isabelle, elle ne fait pas l'unanimité.
Alors, l'idée de créer un certificat européen de vaccination, le même pour tout le monde aux quatre coins de l'Europe, ça ne pose pas de problème, hein, même s'il y a un gros travail technique à réaliser. Non, la difficulté, en fait, elle porte sur l'usage qui sera fait ensuite de ce certificat, sa transformation en passeport vaccinal, si vous voulez. Le risque, c'est de créer deux classes de citoyens européens, les vaccinés et les autres. Les vaccinés ayant plus de droits que les non-vaccinés, notamment celui de voyager en Europe. Or, l'Union européenne, et plus précisément la zone Schengen, c'est un espace de libre circulation des personnes, sans contrôle aux frontières intérieures. Exiger un passeport vaccinal pour aller au hasard en Grèce, c'est quasiment comme exiger un passeport vaccinal entre Paris et la Bretagne. Hier, la Commission européenne a donc suggéré une piste pour éviter de créer des discriminations. C'est soit exiger un certificat de vaccination, soit exiger un test négatif. En fait, le débat ne fait que commencer et les chefs d'État et de gouvernement vont en discuter demain lors de leur sommet virtuel.
Et vous suivrez ça pour nous. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles. En France, le secteur de la culture de nouveau mobilisé aujourd'hui.
Oui, alors que les théâtres et les salles de spectacle n'ont aucune perspective pour l'instant, les intermittents en appellent donc une nouvelle fois au gouvernement.
Et ils réclament 115 millions d'euros pour pouvoir répéter dans de bonnes conditions en attendant la réouverture, comme l'explique Ghislain Gauthier, il est secrétaire général de la CGT Spectacle.
Pour nous, l'important aujourd'hui, c'est que les personnes retravaillent. Il y a des projets autour de répétitions qui sont mis en place. La ministre elle-même a appelé à ce qu'il y ait des répétitions sur les territoires, mais pour l'instant, il y a eu 0 € de consacré à cela. On a l'impression que l'État est plus à l'écoute des demandes des entreprises que celles et ceux qui font la culture aujourd'hui, les salariés et les artistes-auteurs. Donc on attend des réponses rapides du gouvernement.
Le secrétaire général de la CGT Spectacle au micro européen d'Angèle Châtelier.
Oui, dans quelques secondes avec notre invité à 18h20, on s'intéressera aussi au tourisme et aux fameuses remontées mécaniques. Ça n'est pas gagné, ils attendent une réponse demain. On sera avec le maire de la Plagne Tarentaise, président aussi de l'Association nationale des maires des stations de montagne, Jean-Luc Bock. Il lui reste un peu moins de 24 heures à la Maison Blanche, mais sans attendre, le musée Grévin à Paris a décidé dès aujourd'hui de mettre au rebut la statue de cire d'un certain Donald Trump.
Et hop, plus d'actualité, voilà. S'il le savait, qu'il mettrait sans doute à mal son ego. En tout cas, on est à la veille de l'intronisation de son successeur Joe Biden et on vous retrouve en direct de Washington, Xavier Yvon, où Trump passe donc ses dernières heures en tant que président de la Maison-Blanche. Bonsoir Xavier.
Oui, demain à cette heure-ci, Donald Trump sera redevenu un simple citoyen. Il aura déménagé dans sa maison de Floride. Alors le programme du président sortant pour cette toute dernière journée complète est aussi flou que ces dernières semaines parce que selon son agenda officiel, je cite, le président va travailler de tôt le matin à tard le soir. Il aura de nombreux appels et de nombreuses réunions. Voilà, on ne saura pas plus. Pour sa dernière décision, Donald Trump devrait accorder une série de grâces présidentielles aujourd'hui. Ça pourrait concerner jusqu'à une centaine de personnes dans son entourage et ses partisans. On attend la liste des noms. A priori, il n'ira pas jusqu'à se gracier lui-même préventivement, ni sa famille. Ça fait une semaine qu'on n'a ni vu ni entendu Donald Trump, c'est extrêmement rare. Il est, on le sait, privé de Twitter, reclus à la Maison-Blanche. Il devrait réapparaître aujourd'hui. Il a enregistré une vidéo d'adieu qui doit être diffusée dans les heures qui viennent. Donald Trump va-t-il prendre la plume aujourd'hui pour écrire une lettre à son successeur comme le veut la tradition? La presse spécule. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira demain matin sans accueillir son successeur Joe Biden à la Maison-Blanche. Et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis 152 ans.
Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct donc de Washington.
152 ans, ça ne nous rajeunit pas ça. Et vous restez avec nous évidemment, car demain, édition spéciale à propos des États-Unis, on sera à partir de 18h en direct dans Europe Soir avec nos invités, nos spécialistes et nos envoyés spéciaux pour suivre cette passation de pouvoir très attendue avec Joe Biden.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous dans quelques secondes. Un ancien Premier ministre de 91 ans devant la Cour de justice de la République, Édouard Balladur, pour ne pas le citer.
Et Thibaut Pinot qui passe son tour.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec Isabelle Millet, 18h09. Y a-t-il eu financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur à la présidentielle de 1995? Plus de 25 ans après, l'ancien Premier ministre fait donc face à la justice dans ce volet de la tentaculaire affaire dite Karachi.
Oui, jugé depuis aujourd'hui devant la Cour de justice de la République, aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard. Chloé Triomphe, vous étiez là lorsque les deux hommes se sont présentés comme convenu cet après-midi, donc devant cette Cour de justice de la République.
Oui, Edouard Balladur, élégant en costume cravate, s'est présenté comme il l'avait annoncé devant la cour et malgré son âge, 91 ans, a assisté sans fatigue apparente aux arguments de procédure plaidés par son avocat. Il a même prévu de prononcer une déclaration liminaire qu'il relit et corrige ponctuellement avec un stylo tiré de sa poche intérieure, déclaration qu'il fera finalement demain. À sa gauche, séparé par l'allée centrale, François Léotard, lui aussi est bien présent. Il y avait une incertitude sur sa venue et aucun avocat ne pouvait le confirmer car il n'en a pas, c'est assez rare pour le souligner, mais l'ex-ministre de la Défense, Edouard Balladur, qui a lui-même versé au dossier des éléments pour sa défense, de longs écrits au style littéraire, l'assume parfaitement. Il s'agit de mon honneur, je le défendrai moi-même, précise encore François Léotard d'un ton décidé. François Léotard qui, à chaque suspension, préfère la solitude de la lecture aux discussions de prétoire. Il a amené Antigone de Brecht et Œdipe sur la route d'Henri Beauchaud. Il est vrai que le procès doit durer plusieurs semaines.
Et vous allez suivre ce procès, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Autre procès, celui en appel de Georges Tron qui a été suspendu dès son ouverture. L'ancien secrétaire d'État est en effet cas contact d'une personne positive au Covid. En première instance, il avait été acquitté des accusations de viol et d'agression sexuelle sur deux anciennes collaboratrices. Les aveux de Jean-Marc Reiser. Pour la première fois, il reconnaît avoir tué Sophie Le Tan. Cette étudiante strasbourgeoise avait disparu en septembre 2018 alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un appartement. Son corps démembré avait été retrouvé dans la forêt. Jusqu'ici, Jean-Marc Reiser avait toujours nié.
Les sports à présent, et on ne verra pas Thibaut Pinot grimper les cols pyrénéens cet été. Le cycliste français annonce qu'il ne participera pas au prochain Tour de France.
Et décidément, plus ça va, moins il y a de chances pour qu'il y ait un Français sur le podium cette année, Axel May.
Oui, cette fois, 6 mois avant l'échéance, on sait qu'on ne sera pas déçu par Thibaut Pinot. Après ses deux abandons successifs, dont celui particulièrement cruel en 2019, le désormais trentenaire ira en Italie sur le Giro, où le parcours lui convient mieux. Il s'est exprimé par visioconférence cet après-midi.
Quand on dit encore que je suis la pression médiatique, c'est quelque chose qui est complètement faux, mais depuis 2012 que je suis sur le Tour, on parle beaucoup à ma place, et ça sert à rien de se défendre parce que c'est peine perdue.
Alors Pinot présent sur le Giro, quels autres Français peuvent prétendre à un podium cet été sur le Tour? Romain Bardet? Non, car l'Auvergnat a quitté son équipe de toujours à G2R La Mondiale pour rejoindre l'ex-formation allemande Sunweb, où il ne sera plus leader unique. Julien Alaphilippe, le nouveau champion du monde, a répété la semaine dernière qu'il ne viserait pas le classement général du Tour. Guillaume Martin, le grimpeur normand, est toujours à la recherche d'une première victoire d'étape et le podium semble encore hors de portée. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas encore cette année que Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 85, aura un successeur. Et dans 6 mois, un Français dans le top 5 sur les Champs-Élysées serait déjà un bon résultat.
Merci Axel May. Et puis le foot, bonne nouvelle pour les clubs amateurs engagés en Coupe de France. Ils sont autorisés à reprendre dès cette semaine. Les premiers matchs auront lieu à la fin du mois. Mais inquiétude pour les joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner dans des conditions normales, bien sûr, ces derniers mois.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal à 19h. Un petit coup d'œil au temps avec Anissa. Le temps se dégrade demain.
Oui, avec Julien sur la Bretagne et les Cévennes, des pluies qui seront assez marquées. En Normandie jusqu'au Hauts-de-France, le ciel est très couvert avec des averses. En Provence et sur la Côte d'Azur, là aussi le temps est humide avec toute la journée des averses. Partout ailleurs, c'est un ciel qui hésite entre nuages et éclaircies. Mais ce qu'il va falloir surveiller demain, Julien, c'est le vent. Un vent qui se lève sur quasiment toute la France, du nord et tout le long de la façade atlantique. Là, c'est le vent de sud-sud-ouest qui souffle jusqu'à 80 km/h. Sur les côtes, 70 km/h dans les terres. En fin de journée, sur les côtes normandes, le pic sera à 100 km/h. Dans les Pyrénées, là aussi, le vent va dépasser les 100 km/h. De l'Occitanie à la vallée du Rhône, les rafales pourront atteindre les 90 km/h. Il faut savoir que dans la région lyonnaise, on attend des grosses rafales à 100 km/h demain. Paris est également concerné. En fait, toutes les régions de France sont concernées par un gros coup de vent demain. Les températures, elles sont plus douces. C'est le vent du sud qui souffle forcément. Moins 2 à Chambéry, moins 1 à Belfort. 6 degrés demain matin à Paris, 10 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 7 à 15 degrés.
Eh bien, c'est noté. 100 km/h en zone urbaine, c'est pas mal.
Ça va souffler très fort. Ouais, on va surveiller
voilà,
ça de près.
Prudence à Lyon, prudence à Paris, prudence un peu partout en France. Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
18h14, vous restez avec nous dans quelques secondes. La colère d'un élu, il s'appelle Jean-Luc Bock, il est maire de La Plagne-Tarentaise et redoute une catastrophe si les stations ne rouvrent pas. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h17, il est maire de La Plagne-Tarentaise et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Bonsoir Jean-Luc Bock.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Est-ce que d'abord vous confirmez, comme on l'entend beaucoup dire en ce moment, que les remontées mécaniques pourraient ne pas rouvrir en février ? Est-ce que vous avez des informations ?
Alors, on n'a pas d'informations directes, puisque j'étais encore hier en visioconférence donc avec un ministre, le secrétaire d'État au tourisme, si vous voulez. Et donc, on a évoqué beaucoup de choses, tous les scénarios possibles, toutes les hypothèses possibles. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de certitude de la non-ouverture.
Vous le redoutez ?
Oui, de plus en plus, parce que quand on voit la gestion malheureusement de la crise sanitaire au niveau national, on a peur que ça dure, que ça perdure et qu'on n'ait pas cette possibilité d'ouverture. La montagne française est la grande sacrifiée aujourd'hui au niveau économique et pas que, parce que le sanitaire est prioritaire, on est bien d'accord, on est tous d'accord, mais là il va falloir vraiment prendre la mesure de ce que l'on doit faire dans le temps pour vivre avec la Covid-19.
Oui, et on le rappelle hein, Jean-Luc Bock, à chaque fois la France est 250 stations de ski, ça représente 18 000 emplois directs, c'est 120 000 emplois indirects avec les hébergeurs, les loueurs, les magasins spécialisés, les emplois saisonniers, les guides, tout ça génère plus de 11 milliards d'euros d'activité en France. Pas de ski en février, ça veut dire une année blanche pour les stations. J'imagine que économiquement pour vous, ça va être très très compliqué de remonter la pente si ça se confirme.
Ben, si cela se confirme, c'est juste une catastrophe sans précédent et c'est surtout une catastrophe sociale parce que vous l'avez dit, c'est 120 000 emplois directs en altitude, mais c'est plus de 100 à 150 000 emplois indirects en vallée et avec tous les fournisseurs, il ne faut pas les oublier. Donc c'est tout un écosystème qui risque d'être mis à mal. On a mis 60 ans pour bâtir cet écosystème, puisque depuis le dernier plan neige des années 60, on a mis 60 ans pour qu'il soit fonctionnel et pour qu'on soit une des destinations mondiales en tête et leader dans son domaine. Aujourd'hui, tout perdre, ça serait une catastrophe et donc c'est pour ça qu'on attire l'attention des médias et on attire l'attention surtout du gouvernement. Il va falloir nous aider à la hauteur des pertes enregistrées pour qu'on n'ait pas des dépôts de bilan sans précédent au niveau de la montagne française.
Oui, ce serait une catastrophe sociale évidemment. Jean-Luc Bock, on vous entend, vous êtes maire de La Plagne-Tarentaise, vous représentez aussi les maires des stations de montagne. Comment sont-ils aujourd'hui ces maires que vous représentez, dans quel état d'esprit sont-ils ?
Ils sont tous consternés, on est tous consternés, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Si tant est qu'il y avait une seule et unique raison qui empêche ces ouvertures de stations, si les règles sanitaires n'étaient pas respectées, à titre indicatif, c'est le seul territoire qui a mis en œuvre un protocole sanitaire validé par les ARS, validé par la cellule de crise parisienne. On a aussi des centres de tests, on a tout préparé, on a tout étudié, on a réfléchi à toutes les situations. 95% de l'accidentologie en montagne est traitée par les cabinets médicaux d'altitude. Les hôpitaux, aujourd'hui, ne sont pas saturés, il y a moins de monde, et ça, fort heureusement.
C'est important, Jean-Luc Bock, ce que vous dites, parce que c'est un argument qui est beaucoup revenu pour justifier la non-ouverture des remontées mécaniques. Vous dites c'est un faux débat. En vérité, tous les accidentés de la montagne sont soignés en cabinet médical et n'engorgent pas les hôpitaux, comme on l'a beaucoup dit.
Eh ben, complètement. Je vais vous donner un exemple du département de la Savoie, qui est le premier département au monde en termes de ski. Ce département, chaque année, pour pouvoir ouvrir, il faut 5 lits de réanimation et pas un de plus. Et cela depuis une trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impossibilité à ce niveau-là, au niveau des lits de réanimation. Et les hôpitaux de proximité sont quasiment désertés parce qu'on a tellement fait peur à tous les Français qu'ils ne vont même plus se soigner pour des maladies courantes. Donc ça veut dire qu'on a des hôpitaux publics presque vides, on a des cliniques privées complètement vides. Complètement vide, des cliniques privées, oui. Je vous engage à regarder, à le tester. Malheureusement, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des personnes qui vont vous le confirmer. On a peur des représailles et on a peur que le système financier qui les alimente s'arrête. C'est quand même une vraie catastrophe sanitaire et financière qui est en train de se jouer. C'est un drame pour la montagne française.
Alors, personne ne le confirmera peut-être, mais on va aller enquêter, nous, avec les équipes d'Europe 1, Jean-Luc Bock. Message entendu ce soir. Est-ce que vous craignez que certaines stations ne rouvrent jamais ?
On en a peur, oui. On en a peur, parce que vous savez, à partir du moment où vous avez des municipalités qui avaient déjà des difficultés pour faire fonctionner leur système, par manque de neige quelquefois, ou alors par manque de visibilité ou de clientèle, ou alors il y avait un système qui était un petit peu vieillissant, il fallait mettre de gros investissements, parce que c'est ça la montagne aussi, on a de gros investissements pour changer les appareils, pour qu'ils soient au goût du jour. Et donc ces collectivités qui étaient peut-être déjà en difficulté risquent d'être sous tutelle parce qu'elles ne pourront plus fonctionner. Donc oui, on a peur que certaines stations ne puissent jamais réouvrir et que ce drame de la Covid-19, parce que c'est un drame, devienne aussi un drame local pour eux.
Est-ce que vous arrivez tout de même à aller compenser une petite partie de cette perte de chiffre d'affaires et d'activité en proposant d'autres activités pour inciter tout de même les vacanciers et les auditeurs d'Europe 1 notamment qui nous écoutent et qui sont nombreux à venir malgré tout soutenir les activités de montagne?
On n'a jamais mis autant d'activités en place que ces derniers temps. Tout fonctionne maintenant sur la montagne, mais on se rend compte qu'on les avait déjà. En fait, on les a ressortis pour certaines. Mais vous avez des dizaines, des centaines d'activités différentes. Si vous voulez passer des vacances hyper intéressantes, que ce soit sportives ou que ce soit culturelles à certains niveaux pour vous former sur ce qu'est la montagne avec les accompagnateurs, avec les guides, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on est en train de vivre une modification du système puisque 80% de notre clientèle venait pour les remontées mécaniques et pratiquer le ski ou toute autre glisse alternative. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à autre chose. Et on a de plus en plus de gens qui nous parlent de la montagne différenciée. Oui, on a tout ce qu'il faut pour satisfaire tout le monde et faire plaisir à toutes les familles.
Bien, Jean-Luc Bock, si je vous suis avec la catastrophe sociale que vous prédisez, si jamais l'ouverture n'a pas lieu en février, parce qu'encore une fois, on le rappelle, ce sera une année blanche, les vacances de février, c'est tout de même entre 30 et 40% de chiffre d'affaires des stations, après déjà une fermeture en décembre qui représente entre 25 et 35% d'activité pour les stations de sport d'hiver. Ça veut dire que l'année prochaine, ou dans deux ans, pour ceux qui ont la chance de pouvoir profiter de nos belles montagnes et d'aller au ski, il y aura des restaurants fermés, il y aura des magasins fermés. Le rideau sera tiré partout dans ces petits centres-villes de stations de sport d'hiver.
C'est vraiment ce à quoi on s'attend. Si jamais les aides qui peuvent nous être octroyées, les aides qui doivent nous être octroyées, puisqu'on n'est nullement responsable de la non-ouverture des remontées mécaniques.
Elles sont suffisantes,
c'est
d'ailleurs,
l'État
ces aides.
L'a décidé, c'est le système de santé qui l'a décidé. Donc à un moment donné, il va falloir aider tous les commerçants, tous les artisans, tous les socioprofessionnels de station. Sinon, on va les perdre.
400 millions d'euros, je crois, ont été débloqués en soutien aux professionnels de la montagne. Ça sera suffisant ou faudra rajouter une somme importante pour combler justement ces pertes engendrées au mois de février?
On est très loin des sommes qu'il faut pour éviter une catastrophe et des fermetures définitives de commerçants, d'artisans, d'entreprises. On est encore très loin. Actuellement, on est en train de déplafonner au niveau européen des sommes qui ne permettaient pas à certaines structures, certaines sociétés de survivre et de passer le cap.
Oui.
Pour le moment, on n'a pas encore eu ces autorisations. On les attend. On travaille avec beaucoup de ministres et de personnes qui sont chargées de cela, avec les ministères, bien entendu, du tourisme, avec la ruralité, avec Alain Griset, avec Bruno Le Maire. Mais on n'est encore pas bon pour l'instant et on n'est pas sûr de sauvegarder notre modèle économique.
Jean-Luc Bock, vous êtes un élu, vous êtes maire de la Plagne-Tarentaise, vous êtes un élu proche du terrain. Est-ce que vous aussi vous déplorez le manque de doses pour vacciner les plus de 75 ans et un embouteillage, comme on l'a beaucoup dit, des rendez-vous?
Alors, je vais être très factuel. Vous savez, on a commencé malheureusement au mois de mars cette crise par le fait de dire à tout le monde il ne faut pas de masque. Tout simplement parce que les masques, on ne les avait pas.
Oui.
On avait détruit des vieux stocks et on n'en avait pas commandé des nouveaux. On a continué ensuite en nous expliquant que les tests antigéniques ou les tests salivaires pour dépister les personnes, c'était pas bien, il ne fallait pas le faire. On s'est rendu compte avec le temps que c'était impératif de le faire pour isoler les personnes contagieuses. On a continué avec la vaccination et la vaccination a commencé lentement parce qu'on n'a pas eu la possibilité de mettre en œuvre tout le système de distribution qui permet de faire fonctionner cela.
Mais vous
pense
avez des doses à la Plagne-Tarentaise qui arrivent ?
Nos systèmes de santé sont malheureusement complètement dépassés et il va falloir que les ARS revoient leurs copies, sinon c'est l'État français qui va aller mal.
Mais vous arrivez, vous, à vacciner un petit peu quand même les plus de 75 ans à la Plagne-Tarentaise ?
Non, c'est très difficile pour le moment parce qu'on n'arrive pas à obtenir les doses nécessaires. Donc oui, il y a un embouteillage, on ne sait pas où. Mais pour le moment, en tout cas, ça n'arrive pas sur les territoires où ça arrive difficilement au compte-gouttes. Quand on veut bien protéger sa population, on met tout en œuvre pour y arriver. Et je ne mets pas les ministres, je ne mets pas le président là-dedans. Je mets la technocratie française des ARS en cause.
Bien. Et on aura donc une décision définitive normalement demain à propos des stations de sport d'hiver et de l'ouverture ou non des remontées mécaniques. Courage évidemment à tous les professionnels qui subissent ce coup d'arrêt en ce moment. Merci à vous Jean-Luc Bock de nous avoir accordé quelques instants en direct dans Europe Soir. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, vous restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Aujourd'hui, on s'intéressera à cette polémique sur le passeport vaccinal. Pas si simple, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Emmanuel Macron indique ce soir que la France s'apprête à ajuster son effort au Sahel où est déployée la force Barkhane. Grâce aux résultats obtenus et à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, dit-il. Le chef de l'État qui ne précise pas toutefois le nombre d'hommes qui seront concernés ni le calendrier. C'est une conséquence directe de l'épidémie de Covid, une espérance de vie amputée de plusieurs mois pour les Français et des naissances au plus bas depuis 1945. Bilan donc de cette année 2020 en France dressé par l'INSEE. 25 ans après les faits, Édouard Balladur comparaît devant la Cour de justice de la République, l'ancien Premier ministre jugé pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. C'est l'un des volets de l'affaire Karachi. Pour la première fois, Jean-Marc Reiser reconnaît son implication dans la mort de Sophie Le Tan. Cette jeune étudiante de 20 ans avait disparu en septembre 2018 dans la banlieue de Strasbourg. À Paris, les conducteurs des RER A et B appellent à la grève jeudi. L'arrêt de travail ne concerne que ces deux lignes de la RATP. Les syndicats dénoncent les pressions exercées par le management et l'absence de reconnaissance financière. Dans la région de Lyon, c'est l'usine Sanofi de Marcy-l'Étoile qui est perturbée par une grève de ses salariés qui dénoncent des suppressions de postes envisagées par le groupe pharmaceutique.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Un petit coup d'œil à la météo avant de passer aux grandes voix avec Anissa qui nous a retrouvés et qui nous annonce, attention, prudence, de forts coups de vent demain.
Oui, le vent du sud va souffler sur la majeure partie des régions demain, sur les côtes de la Manche en tout début de journée, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Au fil des heures, le vent va s'engouffrer dans les terres pour en fin de journée atteindre les 100 km/h sur le Pas-de-Calais et la Normandie. De l'Occitanie à la région lyonnaise, là aussi, jusqu'au Val-de-Saône, hein, nous aurons de forts coups de vent. D'ailleurs, dans la région lyonnaise, les pics en rafale pourrait atteindre les 100-110 km/h. Les températures sont plus douces demain avec moins 2 à 10 degrés le matin et 7 à 15 l'après-midi.
Bien noté, merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le débat des grandes voix à 18h32, débat des grandes voix du mardi. Ce soir à mes côtés, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir Julien.
Et le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir.
Alors ce soir, on évoque ensemble ce débat autour du passeport vaccinal. Le sujet était sur la table aujourd'hui du Conseil européen avec l'idée donc d'instaurer, d'autoriser certains déplacements ou certaines pratiques sous condition d'être vaccinés. Des pays comme la Grèce ou Israël, en dehors de l'Europe, ils sont favorables. Mais en France, ça ne fait pas l'unanimité. C'est prématuré, a dit ce matin Olivier Véran.
La question se posera nécessairement à un moment donné. Si à un moment donné, on nous dit que le vaccin, non seulement il préserve des formes graves, mais qu'il protège de la contagiosité et de la contamination, et que si vous êtes vacciné, vous n'avez plus de risque d'attraper le virus ou de le passer à quelqu'un d'autre, ce débat, il deviendra nécessaire parce qu'il sera cohérent.
Alors, il faut être précis pour parler de cette histoire de passeport vaccinal. Parce qu'il y a des conditions. Ce pourrait être un passeport vaccinal pour prendre l'avion, pour prendre certains transports, ou tout simplement, 60% des Français y sont favorables, pour rendre visite à nos anciens dans les EHPAD. Voilà, donc c'est vrai que c'est rendre de fait la vaccination obligatoire pour certains actes du quotidien, mais pas pour tous les actes du quotidien. Bonne idée ou mauvaise idée, Guylaine Ottenheimer ?
D'abord, moi je trouve que le mot passeport n'est pas bon. Un passeport, c'est un État qui donne un document pour passer une frontière, pour aller dans un autre pays. Donc quand même, il ne faut pas exagérer. Aller voir nos anciens dans les EHPAD, ce n'est pas un passeport. On peut exiger un certificat comme on a un carnet vaccinal pour certaines...
Mais sur le principe.
Sur le principe, Je suis très choquée par ce que dit M. Véran, en disant que la question se posera un moment où on verra que le vaccin est efficace. Non, on posera la question le moment où le vaccin sera disponible pour tous.
Oui.
Comment voulez-vous imposer des conditions, des restrictions pour des citoyens qui se battent en essayant d'avoir un vaccin? Enfin, c'est hallucinant. Il n'y a pas 1% de la population qui est aujourd'hui vaccinée et on parle de passeport vaccinal.
460 000 Français vaccinés à l'heure où l'on se parle. Charles Villeneuve, pour ou contre cette idée de vaccin, de passeport vaccinal?
Moi, j'y suis favorable à partir du moment où toutes les conditions seront remplies. C'est-à-dire qu'on aura plus de 60% des Français auront reçu la deuxième dose.
Oui, donc ce n'est pas demain la veille, a priori.
Voilà.
Et pour les 40% qui n'ont pas pu l'avoir parce qu'elle n'était pas encore disponible?
Non, parce qu'il paraît que l'immunité, de toute façon...
Mais alors, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'un passeport.
Pascal Perrineau.
Oui, non, si, pour prendre le voyage, pour voyager.
Oui,
si.
Alors ça,
il y a déjà
différent.
D'ailleurs des compagnies aériennes qui ont mis en place, oui, ou qui ont dit qu'elles allaient mettre en place ce passeport.
Il y a deux compagnies.
La compagnie australienne, Qantas, notamment.
Et puis la compagnie israélienne, parce que les Israéliens sont allés un peu plus loin,
oui,
justement.
Oui.
Parce qu'eux sont quasiment à la veille d'imposer le passeport, oui, vaccinal.
Oui, et eux ont déjà vacciné massivement. Je crois qu'ils sont à plus de 2 millions de personnes vaccinées. Pascal Perrineau.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la position des Français. Les Français, quand on leur demande est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire, une majorité dit non.
Oui.
Il n'en est pas question. En revanche, quand on leur dit est-ce que vous êtes pour le passeport vaccinal, ils disent oui. Hein, parce que le passeport vaccinal serait réservé simplement à certaines situations, quand on va à l'hôpital, quand on va voir des vieux parents dans les EHPAD et quand on va à l'étranger. On comprend d'ailleurs pourquoi la Grèce est favorable à cette idée. Parce que la Grèce, c'est un pays extrêmement touristique dont l'économie dépend énormément, en effet, de l'arrivée d'étrangers sur son sol et d'étrangers, si possible, non porteurs du coronavirus. Donc, en effet, quand on aura atteint un score un peu plus, j'allais dire, un peu plus significatif que celui qu'on atteint aujourd'hui, on pourra envisager, oui, pourquoi pas, un passeport vaccinal.
Mais un passeport vaccinal, ça serait plutôt pour voyager. En tout cas, c'est comme ça que l'imaginent les Européens. Oui. Hein. C'était en, oui, discussion aujourd'hui au Conseil européen. Alors, on est vraiment au début, au tout mais début des négociations. Parce que, par exemple, existe... les Pays-Bas, ils sont opposés de leur,
oui,
côté.
Alors, ça pose un problème au sein de l'espace de Schengen. Mais bon, ça existe déjà pour des tas de maladies. Par exemple, la fièvre jaune, il y a des tas de pays d'Afrique où vous ne pouvez pas y aller sans avoir le vaccin.
Et alors, pas
il y a
les vaccins pour la fièvre jaune.
Pas seulement
pour la rougeole,
oui,
aussi.
Et puis, il y a des choses qui sont recommandées.
Et puis, je rappelle qu'en France, il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants.
Exactement. Oui, voilà.
Donc, le fameux BCG, d'ailleurs.
Après, évidemment, si les gens refusent de se faire vacciner, ben, ils ne pourront pas aller au théâtre. Mettons, je dis une situation extrême. Mais il faut qu'ils aient le choix. Moi, ce que je ne comprends pas, cette histoire de passeport vaccinal, elle a débuté quand, à l'époque, les Français étaient très anti-vaccins. Donc, on s'est dit, pour les encourager, on va leur dire, bah, s'ils se font vacciner, ils pourront retourner au théâtre, au cinéma, etc. Maintenant, on a complètement changé de problématique. La problématique, ce n'est pas que les Français ne veulent pas se faire vacciner, c'est que les vaccins arrivent au compte-gouttes et que c'est la guerre.
Et qu'il n'y a pas suffisamment de doses.
Et que c'est la guerre pour se faire vacciner. Et que si vous, en plus, vous dites qu'il va y avoir un passeport vaccinal et que vous pourrez aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre, si vous avez votre vaccin, mais que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas y aller, là, ça va quand même exploser, parce qu'on est très très loin de pouvoir offrir les deux doses à tous les Français.
On marque une première pause et on se retrouve dans quelques instants, on continuera d'en parler, et puis on évoquera aussi le procès en cours contre Édouard Balladur. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Avec la suite à 18h39 du débat des grandes voix du mardi, à mes côtés ce soir, Charles Villeneuve, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, et le politologue Pascal Perrineau. Et on parle de cette polémique autour du passeport vaccinal. Faut-il, d'une certaine manière, rendre le vaccin obligatoire? Ça revient à ça, finalement, ce passeport vaccinal, que ce soit pour voyager, pour aller voir nos anciens dans les EHPAD, ou encore pour aller dans certaines entreprises. Parce que c'est ce qu'il commence à se passer, par exemple, du côté des sociétés informatiques. J'ai lu ce matin que Microsoft réfléchissait à la mise au point d'un passeport de vaccination, notamment pour un certain nombre de ses salariés. Est-ce que ça n'est pas quand même une manière de se protéger et de faire redémarrer l'économie plus rapidement? Charles Villeneuve, Pascal Perrineau.
Oui, moi je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quatre pays européens qui y sont favorables. La Belgique, la Hongrie, qu'est-ce qu'il y a encore? L'Espagne, important quand, ouais, même. Et puis le quatrième,
puis la Grèce, bien sûr, voilà, pour le tourisme.
Et qui y sont nettement favorables. Oui. Pas favorables à demi-mot, mais nettement favorables. Évidemment, l'économie rentre dans ce paramètre-là. Et moi, j'y suis favorable aussi. J'ai dit mes conditions, enfin, ce ne sont pas les miennes, mais pour la majorité des Français. Et n'oublions pas, d'ailleurs, tout à l'heure, Guylaine a fait allusion au carnet jaune, ce qu'on appelle le carnet jaune, c'est-à-dire la fièvre jaune, quand on va dans certains pays d'Afrique, qu'il y a aussi l'obligation de se faire vacciner pour trois autres maladies, qui est la rougeole, le tétanos et la rage.
Oui.
Bon, et puis le choléra, tu évoquais tout à l'heure, Guylaine, le choléra, c'est ponctuel.
Oui.
C'est dans les pays qui sont atteints ou où il y a une...
À terme, ça peut fonctionner tout cela, mais évidemment, on en revient à la question essentielle. Tant qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde et tant qu'il n'y a pas de dose pour tout le monde, ça ne peut pas marcher. Parce que le passeport sanitaire, ça crée aussi une forme d'inégalité des citoyens face à l'accès au vaccin. Si dans la région Île-de-France, il y a beaucoup de gens vaccinés, mais que dans l'Ain, il n'y a pas de dose pour se faire vacciner, ce passeport... vaccinal, il crée des inégalités de citoyens.
Bien sûr, mais vous avez... Tout le monde n'est pas complètement égal devant le Covid, parce qu'il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres. Et vous avez vu que des syndicats, par exemple comme un syndicat infirmier, vient de proposer une vaccination quasi obligatoire pour les infirmiers en milieu hospitalier, en disant d'abord, ça vous protégera et vous protégerez les autres. Hein. Donc, cette idée d'une vaccination obligatoire sur des populations particulièrement exposées ou particulièrement à risque pourrait avoir du sens.
Oui, et ça fait son chemin.
Non, ce qui est intéressant de noter, c'est que le gouvernement avait d'ailleurs présenté fin décembre un projet de loi sur les urgences sanitaires qui a été perçu d'ailleurs comme une volonté, souvenez-vous, on en avait parlé ici même, d'instaurer un vaccin, un passeport vaccinal au moment où débutait la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et sous le feu des critiques, l'exécutif avait finalement fait marche arrière et remballé son texte. Donc c'est un faux débat qui est agité par l'opposition, si je vous suis bien, Guylaine Autonomer, mais qui n'a que peu de chances d'entrer en vigueur relativement court.
Si on pouvait tous demain aller à la pharmacie se faire une injection, etc., moi je dirais bravo au passeport vaccinal. Et les 30% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner, bon ben voilà, si vous ne voulez pas vous faire vacciner de la fièvre jaune, vous n'allez pas dans certains pays d'Afrique. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner d'un certain nombre de choses, vous ne voyagez pas.
Oui.
Bon, alors se posera toujours la question des personnes pour lesquelles il y a une contre-indication. Donc ça, il faudrait prévoir des clauses pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour X raisons. Mais tant qu'on n'a pas ce vaccin, je veux dire, c'est très prématuré. C'est pour ça que je suis choquée par ce que dit M. Véran. On dit, quand on saura que le vaccin marche, on pourra en parler. Non, on pourra en parler quand vous serez capable d'administrer une dose à tous ceux qui veulent l'avoir.
Non, mais on ne l'est pas de toute façon. On ne l'est pas de toute façon.
Bah alors donc, remettons le débat au moment où on pourra, discuter.
Le seul pays des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France. C'est le seul qui n'a pas son vaccin, puisque tous les autres l'ont.
C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un échec français industriel, Sanofi qui n'a pas réussi à produire son vaccin.
Donc on
ne
peut pas appuyer sur l'accélérateur pour en avoir plus.
Julien, moi je trouve qu'il y a quand même, ça fait son chemin, il y a une forme de passeport qui est en train de s'imposer, notamment à l'embarquement des avions. C'est la généralisation des tests. Et donc, de plus en plus, on réclame des tests. Et donc, c'est une forme de passeport, justement, avant d'embarquer.
Oui, c'est vrai. Un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et puis maintenant, vous avez vu que la France demande, alors c'est sur l'honneur, il n'y a pas de contrainte, demande aux citoyens qui arrivent de l'étranger de s'isoler pendant 7 jours. Je ne sais pas bien d'ailleurs comment tout ça est contrôlé et si ça fonctionne, mais bon, ça existe. Pascal Perrineau.
Et puis, je crois que derrière tout cela, même si ce n'est pas au premier plan, mais il y a une question politique. C'est vrai que ce pouvoir a fonctionné depuis 11 mois, beaucoup de manière très administrative, avec toute une série de formulaires à remplir, d'interdictions qui se cumulaient pour se déplacer, et que on sait très bien que la France est un pays qui est assez rétive vis-à-vis, la France est rétive vis-à-vis de tout ce qui s'apparente à l'obligation. Regardez le débat par exemple sur le vote obligatoire. Voilà. Donc je crois qu'il y a aussi la volonté du pouvoir de ne pas en rajouter sur sa dimension de pouvoir qui empêche.
Mais on sent que la colère quand même s'installe sur la lenteur de cette mise en place de la vaccination.
Mais les gens ont envie d'en sortir et on a tous compris que la seule façon de s'en sortir, revoir l'économie fonctionner, de repouvoir aller boire un verre ou un petit café au bistrot du coin, c'est le vaccin. C'est la seule solution. Bon, on a beau mettre des masques et se laver les mains, il y a des fuites, il y a des trucs, ça ne marche pas à 100%, il y a des gens qui font des conneries. La seule issue, c'est le vaccin. Et on a une chance extraordinaire que ce vaccin soit arrivé si vite. Bon, maintenant, il faut saisir notre chance. Et malheureusement, comme vous le disiez, la France ne fabrique pas de vaccin, donc on ne peut pas appuyer sur l'accélérateur. On attend les doses que voudra mieux nous fournir l'Europe Souvenez-vous, quand l'Europe a commencé à acheter les vaccins...
300 millions de doses qui ont été recommandées.
Oui, mais quand elle les a achetées, à l'époque, tout le monde doutait du vaccin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si jamais le vaccin n'avait pas marché? Quel argent a été dilapidé?
En tout cas, je ne sais pas si vous regardez régulièrement les chiffres sur ce site qui est formidable, qui s'appelle Vaccin Tracker, qui rassemble chaque jour le nombre de personnes vaccinées. Et puis le nombre de vaccins aujourd'hui disponibles, il y en a très peu. On en a eu 1,6 million depuis le 24 décembre. Il y en a déjà 450 000 qui ont été administrés. Ça veut dire qu'il reste simplement dans nos frigos français un peu plus d'un million de vaccins. Ce n'est pas beaucoup quand même.
Non, mais vous avez des villes de toute façon. Là, tout à l'heure, le préfet des Alpes-Maritimes, puisque vous le savez, c'est l'un des départements que je connais le mieux avec le Var. Eh bien, les préfets ont annoncé à la plupart des villes de 20-30 000 habitants qu'ils auraient chacun... dans les 48 heures qui viennent, 50 vaccins par jour.
Bon. Voilà, tout est
dit. Mais si vous voulez, en même temps, ça marche pas mal, et c'est bien d'avoir décentralisé, d'avoir accordé aux préfets ce qu'ils savent très bien faire, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont en quelque sorte des logisticiens. C'est dommage qu'on ait accordé ça aux agences régionales de santé, on a vu le four que c'est. Et il n'empêche qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. On le sait de toute façon qu'on va mendier finalement l'achat des vaccins, puisqu'on n'est pas indépendant là-dessus.
On va laisser le Covid quelques minutes derrière nous et on va parler dans quelques secondes de cette affaire dite Karachi avec la justice qui entend depuis ce matin le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du mardi, 18h50, toujours Charles Villeneuve à mes côtés, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge et le politologue Pascal Perrineau. On parle maintenant donc de l'affaire dite Karachi, avec l'ouverture aujourd'hui du procès de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle. C'était en 1995, via des rétrocommissions illégales sur des contrats d'armement. Il est jugé aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard. Alors, question à vous trois. Un procès qui intervient, mais on va expliquer pourquoi, 25 ans plus tard, quand un simple justiciable, quand un simple citoyen est jugé quelques mois ou quelques années seulement après avoir commis un délit. Est-ce que ça n'est, pardon du mot qui est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça n'est pas insupportable pour l'opinion publique ?
C'est insupportable. Enfin, rassurez-vous, il y a beaucoup de justiciables qui attendent des procès et qui attendent 4, 5, 6, 7 ans avant que ce soit instruit, renvoyé, une expertise, et ça prend un temps fou, etc. La justice française n'a pas assez d'argent.
Mais est-ce que c'est propre lentement aux affaires politico-financières?
Mais, 25 ans, c'est inadmissible. On a commencé à s'intéresser à cette histoire après l'attentat de Karachi, grâce au procès intenté par les familles des victimes. C'est une histoire très compliquée. Vous comprenez, les diamants de Giscard, c'est facile. Ou les appartements de Juppé, c'est facile. Tout le monde comprend. C'est comme quand vous avez volé 3000 euros. Tout le monde comprend comment vous les avez volés. Quand il y a des comptes avec des rétrocommissions, avec plein de noms qu'on ne connaît pas, c'est compliqué à expliquer.
Précisons un élément important quand même pour que chacun comprenne pourquoi ça a mis tant de temps. C'est que c'est une plainte déposée par les familles des victimes de l'attentat de Karachi le 8 mai 2002 qui avait coûté la vie à 15 personnes, dont 11 Français travaillant à la construction de sous-marins pour la DCNI dans le port pakistanais. Donc c'est cette plainte
qui est arrivée 15 ans après,
qui a relancé l'affaire et qui a mis en accusation l'ancien Premier ministre.
L'attentat de Karachi, ça mettra des années pour savoir exactement qui a commis cet attentat. Vous voyez, pendant des années et des années, les Pakistanais, les services secrets... jettent du fumigène là-dessus.
Mais ça pose
là-dessus
quand même la question de la vitesse d'une procédure judiciaire.
Le sang contaminé, 20 ans. Le sang contaminé, 20 ans.
Non, mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le droit commun et juger des actes d'État. Ce n'est pas la même histoire, surtout quand intervient, si vous voulez, dans la procédure, un pays comme le Pakistan, où diligenter une instruction judiciaire au Pakistan, notamment après un attentat qui concerne les services de l'État, les services de renseignement, quand on sait de toute façon qu'une grosse commande d'État, comme c'était le cas, qui dépend de ce qu'on appelle aujourd'hui Naval Group, et c'était la Direction de Construction Navale Internationale, la DCNI, c'est très difficile. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles
ça met tant de temps.
Il y a
les commissions rogatoires, ça prend du temps.
Il y a beaucoup d'obstacles.
Il risque gros dans cette affaire, Édouard Maladie.
Il s'agit d'établir et de prouver, parce que jusqu'à présent, l'instruction n'a pas apporté la preuve, réellement, si vous voulez, du fait qu'il aurait, en quelque sorte, réintroduit dans sa campagne présidentielle des rétro-commissions qui viennent...
liées à des contrats d'armement.
Qui viennent de ces contrats d'armement. Bon, et ce qui a, si vous voulez, ce qui a éveillé le soupçon de la Cour de justice de la République, où siègent, il faut le rappeler, 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires, ce qui a éveillé les soupçons, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire des éléments dits clés qui permettent les rétro-commissions. Et c'est le cas, justement, on retrouve, comme dans l'affaire du financement libyen...
Notre ami Takieddine.
On retrouve Ziad Takieddine et, évidemment, un autre, son partenaire, qui est mi-syrien, mi-saoudien, parce qu'on retrouve toujours les mêmes filières dans ces affaires-là.
Pascal Perrino.
Oui, ce qu'il faut noter, c'est que ces intermédiaires, qui sont au nombre de 6 pour l'instant, ils ont tous écopé, parce que eux, ils ne sont pas anciens ministres, donc ils n'ont pas droit à la Cour de justice de la République. Ils ont été jugés par des tribunaux correctionnels et ils ont été assez sévèrement condamnés.
Très lourdement.
Voilà, très lourdement condamnés. Bon, ils font appel, donc on verra comment ça se passera en appel. Mais là, il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté, j'allais dire, pour ces intermédiaires, la justice ordinaire, et pour les ministres, la justice de la Cour de justice de la République, qui a été créée en 1993, dont on attendait beaucoup. On se disait, ça ne verra pas tous les travers de l'ancienne juridiction, la Haute Cour de justice, et dont on est très déçu, parce que dans la plupart des décisions prises par la Cour de justice de la République, les peines, là, n'ont pas été très lourdes. Elles ont été, en général, très légères.
Guylaine Ottenheimer.
Oui, on se souvient Christine Lagarde dans, dans l'affaire Tapie, coupable de négligence, voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce que statue cette cour par rapport à ce que statuait la justice civile, non seulement à l'encontre des intermédiaires, mais du directeur de cabinet d'Édouard Balladur et du directeur de cabinet de François Léotard.
Non, conseiller spécial.
Oui, conseiller spécial, qui ont quand même écopé de 5 ans, dont 2 ans avec sursis.
C'est ça. 5 ans ferme, dont
2
ans.
Non, mais vous disiez que ce qui a attiré l'attention de la Cour de justice et de la justice, c'est les intermédiaires. Mais pas seulement. Il y a quand même eu quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention des juges. C'est ces 10 millions de francs versés en coupure de billets de 500 francs à l'époque, versés dans les comptes de la campagne au lendemain de l'échec du premier tour. Et dont la seule justification, c'est la vente de t-shirts. Bon, tous en billets de 500, tous ça le même jour arrivé, c'est quand même très bizarre.
Et ça va durer plusieurs semaines, on aura l'occasion évidemment de vous en parler dans Europe Soir. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. Dans quelques secondes, le journal Isabelle Millet et le débat du Club des Idées. Ce soir, on parlera de cette idée de créer un revenu minimum spécial jeune. Vous verrez pourquoi. À tout de suite.